très beau parcours. Tout le monde m'entend, ça va? Pardon, j'ai pas une voix naturellement très forte, mais je suis désolée. Donc, moi, une chose que j'ai retenue de ce qu'a dit Thomas, c'est essayer de trouver un chemin pour en sortir. Hein? Donc, moi, je suis chargée de recherche seulement sur la finance durable chez Finance Watch. Alors, quelques mots, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être Finance Watch, mais quelques mots pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, on est une ONG basée à Bruxelles. On est financé à moitié par le secteur privé et à moitié par l'Union européenne. Et on a donc trois axes en fait de travail. Le premier, c'est de travailler sur les contrats qui nous sont donnés par nos donneurs d'ordre. Le deuxième, c'est de suivre et d'influencer autant que faire se peut la régulation financière telle qu'elle se fait à Bruxelles, c'est-à-dire les amendements sur les lois, c'est-à-dire aller voir les députés, c'est-à-dire connaître les agendas, etc. Et puis le troisième, c'est un axe de plaidoyer et de campagne. Donc ici, nous avons Pablo Grandjean qui s'occupe donc de la communication.
Pablo,
voilà. Donc, on a une équipe de communication de choc à Finance Watch parce que, évidemment, dans le monde actuel, c'est très important. Et donc, là, les points de notre positionnement, c'est de dire que les ONG peuvent jouer un rôle dans la mobilisation sociale et sociétale pour faire bouger les choses du côté de la finance. Voilà. Alors, sur le plan de l'agenda, donc, on est en train de lancer une campagne importante qui sera axée aussi sur les 10 years after, là, c'est-à-dire qui sortira en plein épanouissement au mois de septembre, 10 ans après la crise financière. Et puis, je voudrais signaler aussi que donc, on a plusieurs ONG qui sont membres, on fait ça en coalition. Hein, l'idée, encore une fois, c'est de créer un grand mouvement. Enfin, l'idée, c'est de regrouper des forces qui, comme tu l'as dit, Thomas, sont très petites par rapport au grand mainstream. Hein. Donc, on a dans nos membres, on a aussi le Secours catholique Caritas France, qui devrait sortir à l'été un rapport sur une analyse un bilan de la financiarisation et de la globalisation au niveau mondial et des recommandations sur comment essayer d'en sortir. Alors, moi, ce que je voudrais développer, c'est un petit peu notre message essentiel à Finance Watch et un petit peu notre combat aussi, tel que je le vois, tel que je le vis. Et puis, Pablo, tu compléteras parce que chacun a un peu son parcours, évidemment, chacun a un peu son expérience, etc. Donc, je crois que si on essaye de résumer ce qu'on voudrait faire, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est une prise de conscience que la finance, ce n'est pas neutre du tout sur la société. Que la finance, c'est structurant pour la société. Et que donc, par rapport aux crises très graves que nous vivons actuellement, qui sont des crises que je dirais financières, sociales, et climatique, réglementer la finance, ça peut nous permettre vraiment, c'est ce que Denis Dupré, qui est là aujourd'hui, appelle adhérer plus en douceur. Hein. Oui. C'est-à-dire que moi je suis un peu cassante, excusez-moi, j'espère qu'on me croit. Je pense que on est dans des crises qui sont très importantes et que tout simplement. Réglementer la finance, ça permettrait de les atténuer. Ça ne permettra pas d'en sortir. Pour en sortir, il faut changer d'autres choses, en particulier l'économie. Mais, disons, c'est des choses convergentes. Voilà. Hein, donc, c'est un combat de changement dans un contexte de crise. Alors, un peu plus précisément. Donc, je vous ai apporté 3 livres, 4. Alors, probablement, vous les connaissez, donc je passe vite. Mais... Alors, mon grand favori, c'est Adair Turner, Between Debt and the Devil. Sur lequel j'ai beaucoup penché, parce que je l'ai traduit en français, reprendre le recours de la dette.
J'aurais bien aimé être auteur, mais.
Voilà, j'aurais bien aimé l'écrire, mais bon, j'en suis pas encore tout à fait là. Bon, pour ceux qui peuvent lire en anglais, c'est mieux en anglais, parce qu'il y a toute la subtilité de l'entonnoir. Alors, je commencerai par ça. Je crois que c'est un livre qui explique très bien que la violence est un outil structurant. Et je voudrais m'inscrire un petit peu en fond par rapport à un discours qu'on entend, que moi j'entends pas mal dans le mainstream, qui consiste à parler des produits financiers en tant que produits de consommation. Alors, pourquoi pas, mais attention. Turner parle de ça dans le livre. Il dit que la finance, c'est pas comme les voitures ou les restaurants. C'est-à-dire qu'on peut réguler d'une manière ou d'une autre combien on a de voitures, qu'est-ce qu'on a comme voiture. Je sais que c'est important pour le changement climatique, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on a comme restaurant, mais ça n'a pas un impact majeur sur la société. Alors que la manière dont le système financier est organisé, ça impacte, ça structure complètement la société. Hein. Pourquoi ? Parce que ce sont les banques privées qui créent la monnaie, et qu'en créant la monnaie, les banques créent du pouvoir d'achat. Et dans quelles conditions, à qui, comment et jusqu'où est alloué ce pouvoir d'achat, a des conséquences majeures, et on le voit bien aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne, d'une part, le retour de la pauvreté dans nos sociétés, et d'autre part, l'accroissement considérable des inégalités, qui est bien sûr lié à la déréglementation de la finance. Donc, ça, c'est des points importants. Alors, ce que dit Turner, c'est que la dérégulation, le développement de la libre concurrence, c'est peut-être bon pour les voitures et les restaurants, mais c'est sûrement pas bon pour la finance. Et l'argumentation, là, elle est pratique. Elle est de constater que depuis 40 ans, on a eu un ralentissement économique avec une croissance dans les pays avancés de l'ordre de 5%, et que face à ce ralentissement économique, la réponse des gouvernants, ça a été de déréguler la finance. Et la dérégulation de la finance, elle a permis d'avoir une croissance du crédit de 15% par an, qui a compensé, en fait, et qui a cherché à compenser le ralentissement économique. Hein. C'est Raghuram Rajan. Qu'il mange donc du crédit, hein, parce qu'il y a plus de pain. Bon. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'à un moment, ce qui arrive, c'est le surendettement, et ça, c'est la crise de 2008. Hein. Donc, la crise de 2008, c'est l'explosion d'une bulle de surendettement qui a été résolue par une augmentation considérable de la dette publique, puisqu'il y a eu un transfert de la dette privée des banques vers la dette publique, et surtout par le recours massif à la planche à billets, ininterrompu depuis 10 ans et qui a des impacts sociaux extrêmement importants. Bon. Donc, ce que dit Turner là-dedans, pour conclure, c'est que les marchés financiers ne sont pas efficients et que les marchés financiers, il ne faut pas les réguler, il faut les réglementer. Je voudrais insister là-dessus. Ça veut dire, et je crois que c'est notre point de vue à Finance Watch, ça veut dire réguler, ça veut dire un système ouvert à la libre concurrence, on l'ajuste à la marge, c'est le fine-tuning. Nous, ce qu'on dit, c'est que cette voie-là, elle ne fonctionne pas pour la société, et c'est ce que dit aussi Turner, et donc il faut des réglementations beaucoup plus importantes. Hein. Alors, un exemple sur Turner, je reviendrai sur ses conclusions et sur le comment après, mais par exemple, Turner recommande de limiter la croissance du crédit. Bon. Alors, deuxième point, enrayer la crise sociale, économique et écologique. Donc ça, c'est le livre d'Alain Grandjean. Mireille Martini a écrit, mais Alain Grandjean a pensé, et aussi a formé Mireille Martini.
Elle ne pense pas.
Voilà, et Alain a écrit la moitié du livre. Bon. Donc ça, je vais rapidement là-dessus. Mais je reviens à Turner, parce que Turner dit que l'un des problèmes, le problème actuel de notre économie avec la déflation par la dette, c'est l'absence de demande nominale. Il n'y a pas de demande dans l'économie. Donc s'il n'y a pas de demande, il ne peut pas y avoir de croissance. Donc il faut relancer la demande et on relance la demande par l'investissement. Mais investir dans quoi ? Ben, ça tombe bien. On a le formidable challenge de décarboner l'économie, ce qui nécessite justement un investissement massif en infrastructures de long terme. On a tout à fait les moyens de faire puisque la planche à billets est là, il fonctionne à plein régime au-delà de ça. Donc il y a un certain nombre de personnes qui disent que lutter contre le dérèglement climatique est un impératif, parce que sinon c'est la vie de l'espèce humaine sur Terre qui est en cause, hein, rien moins que ça. Mais ce n'est pas seulement une menace, c'est une formidable opportunité pour refaire de l'investissement et pour recréer de la demande nominale. Hein. Donc là aussi, c'est un message qui n'est pas bien entendu, je pense, actuellement par les gouvernements. C'est un message qui ne sera pas porté par la finance, puisque actuellement, pour faire ça, il faut. Donc ça ne se situe pas dans le cadre de ce que le mainstream envisage actuellement. Mais j'insiste bien, il y a des personnes comme Turner, qui fait partie du Sérail, qui commence à proposer des choses comme ça. Donc ça veut dire que le Sérail est en train de se fragmenter face à l'ampleur des crises. Et nous, on aimerait bien que beaucoup d'ONG portent ce genre de combat, qui est un combat, je répète, social, en fait, hein, pour la société, pour l'économie. Et troisième et dernier point, toujours dans le même sens. On revient sur la non-efficience des marchés financiers. Donc il y a un mathématicien français, c'est un grand mathématicien français international qui s'appelle Nicolas Boulot, qui est un spécialiste qui n'a pas pu être là, mais qui est de tout cœur avec nous et je dirais présent intellectuellement, si vous me permettez. Et donc Nicolas, lui, est un spécialiste de la modélisation mathématique des marchés financiers. Donc c'est très intéressant parce que c'est un axe nouveau, c'est quelqu'un qui connaît le système mathématique des finances de l'intérieur, et c'est un axe rare parce que c'est des thématiques extrêmement complexes qui sont inaccessibles. Bon. Donc que quelqu'un comme Nicolas les vulgarise et les analyse, c'est très bien. Alors, ce que dit Nicolas, c'est que les marchés financiers globalisés et commoditisés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut commoditiser, ça veut dire que la quantité qu'on traite financièrement peut être traitée n'importe où dans le monde. Il y a deux marchés qui ne sont pas commoditisés, j'ai envie de dire pas encore, c'est le travail et l'immobilier. Quasiment tous les autres marchés aujourd'hui, en particulier les marchés alimentaires ou énergétiques, sont commoditisés. Le blé, le café, le cacao, le riz, le pétrole, l'huile de palme, tout ce que vous voulez. Donc, aujourd'hui, vous avez des produits dérivés sur ces marchés, c'est-à-dire des paris qui représentent plusieurs dizaines de fois les quantités physiques. Et il y a un seul modèle mathématique, avec des très gros ordinateurs pour gérer ce trading mondial, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'arbitrage. Et ce qui est intéressant, c'est que Nicolas dit que la théorie de l'arbitrage, comme elle régule, comme elle organise la spéculation dans le monde, elle influe sur les prix, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les prix des produits dérivés finissent par influer directement sur les prix des matières réelles. Les prix du monde actuel ne sont pas du tout formés par l'offre et la demande. Ils sont formés par des marchés financiers globalisés et commoditisés utilisant cette théorie. Et deuxième point, cette théorie, comme elle est globalisée avec des très gros moyens informatiques, elle efface la tendance du long terme du prix. Elle ne montre plus que la volatilité. En d'autres termes, je pense qu'on peut dire qu'elle fabrique de la volatilité, ce qui, bien sûr, est ce qui produit les profits sur les marchés financiers. Donc ça a des impacts considérables. Je pense que c'est une critique tout à fait nouvelle des marchés financiers. Pour moi, je n'ai pas vu ça avant, parce que ça vient des mathématiques. Et ce que ça dit, c'est que, en particulier du point de vue de la transition énergétique, comme le prix n'est pas fait par l'offre et la demande, le prix actuel des denrées masque la rareté. Le poisson ne coûte rien, alors qu'on va vers un monde où en 2050, il n'y aura plus de poissons dans les océans. Donc, pour les écologistes, c'est un argument fondamental. Ça veut dire que si on veut réussir à faire la transition écologique, ce que dit Nicolas, c'est qu'il faut un pilotage de l'économie. Évidemment, le problème, c'est le pilotage, ce n'est pas forcément l'outil, mais un pilotage avec les quantités physiques. Donc ça, c'est très important. Donc je résume. Moi, je pense que ces trois auteurs, et puis un peu ces trois champs, le champ réglementer la finance, qui est celui de Turner, le champ transition énergétique, qui est celui de la tangence, de mouvance, et le champ critique de l'efficience des marchés financiers, de Nicolas Boulot, il se retrouve vers on doit cantonner la finance. Les ONG, la société civile, la puissance publique doivent demander une réglementation de la finance au bénéfice de la société et de l'économie. J'ai envie de dire que c'est un peu ça le combat de Finance Watch. Pablo commente, ajoute.
Oui, alors je ne suis pas habitué à parler en public, il faut que les choses soient claires.
On peut les faire passer et il faudrait qu'ils reviennent.
J'avais, je vous attends juste un.
Et la liste aussi.
Un petit mot. Bon, les scientifiques, les chercheurs, les ONG nous disent, documentent ce que j'appelle moi un slow motion car crash. C'est-à-dire, c'est un peu comme Brexit et Trump. On voyait venir, on s'est dit, oulala, ça vient, mais personne n'a rien fait. Et bim, le lendemain, s'est réveillé, ça y est, on est dans l'ère Trump, quoi. Je pense que c'est un peu ce qui se passe avec les crises des inégalités, les crises écologiques, et tout le monde se dit oui, mais c'est la faute de qui ? Ah oui, mais attendez, on n'est pas trop sûr des solutions, il y a des idéologies, il y a de la recherche, tout le monde s'attend. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe ? En attendant, on sait que Nicolas Boulot montre que la problématique financière ont des effets secondaires tels que masquer la scarcity, la rareté des ressources, et donc nous amène dans le mur à cause de la volatilité. On a plein d'indicateurs au rouge. Et en attendant, le régulateur est dans un phénomène de capture. L'idéologie est extrêmement. La fameuse idéologie dont vous parlez est très, très, très dominante. Et certaines réactions qui ont 30 ans d'âge dans une foi dans les certains phénomènes de marché sont toujours en totale domination. Et pendant ce temps, ben, l'intérêt général n'est pas représenté. Et donc, nous, à Finance Watch, ce qu'on veut, c'est qu'on n'attende pas 50 ans que ce soit trop tard, et on veut avoir une meilleure représentativité de l'intérêt général. Donc, on fait des campagnes, on fait de la politique, on représente les consommateurs, on a des trade unions, des associations des syndicats professionnels, on a beaucoup de membres, et on essaie d'agrandir, on essaie de sensibiliser les gens en disant aux gens qui travaillent sur le climat, regardez, il y a des liens avec la finance. Aux gens qui travaillent sur les inégalités, la pauvreté, regardez, il y a des liens avec la finance. Donc, je pense que c'est extrêmement précieux ce que vous faites ici parce que c'est très complémentaire.